musique est un cri qui vient de l'intérieur.
I still have a dream.
Je rêvais d'un autre monde.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
On n'a pas que de l'amour. Ça, non.
Tout homme, et à plus forte raison, tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi.
Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre.
And I'm feeling good.
Bonjour à toutes et à tous, Séverine au micro, je suis ravie de vous retrouver sur RQC. Il n'y a pas péril en la demi-heure, une demi-heure pour aborder, avec des invités, des sujets de société, des sujets d'actualité liés à la programmation du Centre culturel Moucronois. C'est tous les troisièmes vendredis du mois, entre 13h et 13h30 sur RQC 95FM. Les 7 et 8 février derniers, quelques 1200 personnes ont franchi les portails de l'imaginaire au Marius Taquet. Que recherchaient ces visiteurs? Pourquoi notre société cherche-t-elle à s'évader dans l'imaginaire, les jeux de rôle, les jeux vidéo? Nous avons posé la question à l'anthropologue Mégui de Fruitier. Diplômée en anthropologie à l'université de Louvain, Mégui de Fruitier est également chercheuse. Elle s'intéresse à la façon dont les jeux vidéo et par extension les univers de la pop culture s'inscrivent dans nos vies, nos pratiques sociales et nos imaginaires. Son parcours est traversé par cette idée que les mondes virtuels ne sont pas des échappatoires, mais des laboratoires d'imaginaire. Son déménagement en Suède a d'ailleurs renforcé son intérêt pour les espaces numériques comme lieu d'ancrage et de circulation. Mégui de Fruitier est l'invité de « Y a pas péril en la demi-heure ».
Alors, vous dites que l'anthropologie, ce n'est pas seulement aller explorer des contrées exotiques, se plonger dans un environnement différent à l'autre bout du monde, c'est aussi parfois être chez soi. C'est ce que vous appelez l'anthropologie du proche. Vous pouvez nous en dire davantage ?
Avec plaisir. Donc l'anthropologie du proche, c'est un type d'anthropologie. Donc l'anthropologie, c'est une discipline très large qui étudie les communautés humaines à partir de ce qu'ils ont de plus du petit détail, contrairement à la sociologie. Dans l'anthropologie, on a l'anthropologie dite classique qui a commencé à aller voir des contrées exotiques, aller dans la jungle, etc. Et récemment, plutôt dans l'époque contemporaine, on a eu la naissance d'une anthropologie du chez-soi. Donc un anthropologue qui fait partie de la communauté qui va lui-même se confronter à l'étude de son propre groupe. Et donc, étant anthropologue des jeux vidéo, jouant moi-même aux jeux vidéo, je tombe dans cette catégorie du proche. Bien que, j'aime le rappeler, il n'y a pas d'autochtones dans les jeux vidéo. Nous y venons tous à travers différents parcours.
Vous venez de le dire, étudier ce qui compose notre quotidien, dans votre cas, c'est explorer l'univers des joueurs. Vous étiez gameuse avant d'être anthropologue ou l'inverse?
Je pense que j'ai toujours une appétence pour l'anthropologie sans le savoir. Donc ma maman aime le rappeler qu'il y a toujours eu cette curiosité de l'humain qui était toujours présente. Mais la passion du jeu vidéo a commencé avant celle de l'anthropologie, clairement. C'était un passe-temps qui prenait beaucoup de place, tant dans ma vie que dans mon couple aussi, parce que mon mari aussi est un joueur. Et donc ça a toujours fait partie quelque part de ma vie, de ma famille, des amis. Ça a toujours été présent.
Et qu'est-ce que l'une a apporté à l'autre? La gameuse à l'anthropologue et l'anthropologue à la gameuse?
C'est une très bonne question. Je pense que c'est de la multiplicité des points de vue, des casquettes différentes, une sensibilité aussi. C'est-à-dire que quand on joue, on accepte de laisser une part d'émerveillement, de ludique dans sa vie. On n'est pas non plus guindé dans certains moyens de penser. Le jeu nous oblige à redéfinir certains moyens, à penser autrement, à chercher une autre solution, à s'adapter aussi. Parce que bon, les moyens techniques, on le sait tous, on a tous été confrontés un jour aux moyens technique, au programme qui bug. Et donc, il y a eu cette dimension de plasticité, je dirais, du quotidien. Et l'anthropologue a amené ce côté rigoureux, ce côté faire attention aux détails, aux gens, à la manière dont ils vivent et à une forme. Pour moi, l'anthropologie, ce qu'elle m'a apporté le plus, c'est une ouverture d'esprit vis-à-vis des autres, d'une sorte d'humilité, d'accepter qu'on ne sait pas quelle est la vie de l'autre, peu importe, même si c'est son frère, sa sœur, même si c'est son cousin, on ne sait pas comment ils vivent leur vie derrière la porte qui est close, même s'ils sont proches, on ne sait pas. Et donc, rester ouvert à toutes les formes d'altérité et à toutes les formes de différentes façons de vivre. Il n'y en a aucune au-dessus des autres, il n'y en a aucune, elles sont toutes intéressantes, elles disent toutes quelque chose de l'humanité.
Avant de plonger davantage avec vous dans le monde du jeu vidéo, j'aimerais aborder avec vous le terme de pop culture. En ce début d'année 2026, alors que le monde commente encore le final historique de Stranger Things, diffusé le 1er janvier dernier, la force de ce langage commun est indéniable. Comment l'anthropologue que vous êtes définirait-elle la pop culture?
Je pense que c'est une des questions les plus difficiles qui m'ait été posée. La pop culture, pour moi, c'est un terme qui historiquement est lié à une construction de ce que devrait être la culture. On pense notamment, je pense à l'Académie française et des choses comme ça qui ont commencé à édifier une forme de savoir, une forme de culture qui était intellectuelle, qui était valable. Et petit à petit, on a vu une culture populaire, d'où pop. En fait, une culture populaire se construire, et au départ, elle était en opposition à cette culture intellectuelle. Bon, j'espère qu'à l'heure actuelle, on a dépassé cette notion-là. Je suis pas sûre partout, mais j'espère vraiment qu'on va la dépasser parce que la pop culture est devenue en fait un phénomène de notre vie quotidienne qui rassemble plein d'éléments fictionnels, vidéoludiques, médiatiques, livresques. Vraiment, c'est un des auteurs dit que c'est un rouleau compresseur qui digère toute la matière autour de lui, qu'elle soit culturelle, d'autres cultures ou d'une autre, qu'elle digère tout ça et qu'elle le recrache sous une forme particulière qu'on peut reconnaître comme étant de la pop culture. Et effectivement, il y a cette petite note particulière qui dit c'est du quotidien, c'est du populaire, c'est du général, c'est du mondialisé aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est une culture très mondialisée qui véhicule parfois des bonnes surprises, hein, comme on a eu It's a True Valerie ici récemment, qui est venue prendre de court l'industrie de la pop culture et qui maintenant est devenue incontournable. Plus encore d'ailleurs que Stranger Things. En ligne, les gens aiment bien spéculer en disant Stranger Things devait avoir la dragée haute cette année. Et ben malheureusement, ou heureusement, boum, il y a eu comme ça des outsiders. Et c'est ça aussi la pop culture. C'est des choses très mouvantes qui viennent parler, qui viennent vous chercher au quotidien et qui deviennent des références, qui vous suivent tout au long. Je pense à Pokémon, je pense à Jurassic Park. J'ai un enfant ici, Jurassic Park, c'est son quotidien. Ça lui a donné envie d'aimer les dinosaures. Donc, c'est des portes ouvertes vers plein de domaines différents, plein de choses, mais toujours avec cette digestion quand même très mondialisée. Donc, il ne faut pas oublier que même s'il a des beaux aspects, même si c'est ludique, même si c'est parfois léger ou parfois interpellant, il ne faut pas oublier quand même que c'est un gros rouleau compresseur qui vient culturellement amener son lot de stéréotypes, son lot de raccourcis, mais qui permet parfois d'ouvrir des portes vers plus de complexité. Donc, moi, en tant qu'anthropologue, j'aime voir ça comme quelque chose de très équilibré, de positif et de négatif dans tous les sens, mais en tout cas, à nous de le saisir pour que ce soit le plus positif possible.
Elle a encore cette connotation un peu péjorative, la pop culture?
Malheureusement, dans beaucoup de domaines, oui. Et je pense que c'est... j'ai vu ça dans le monde académique, j'ai vu ça un petit peu dans tous les domaines. Quand on regarde vraiment, il y a toujours cette recherche de légitimité dans les groupes humains. On aime se dire que ce qu'on fait a du sens, que ce qu'on compte, en fait, et a une qualité intrinsèque qu'on lui reconnaît. Et je pense que la pop culture vient challenger des domaines comme celui de la littérature, comme celui parfois même du monde académique, hein, parce que quand la pop culture s'invite dans le monde académique, que fait-on? Est-ce qu'on ne va pas perdre du sérieux? Est-ce qu'on va continuer à nous prendre au sérieux? L'anthropologie du jeu vidéo se confronte de plein fouet à ces questions-là. C'est comment être sérieux en parlant de quelque chose qui n'est plus vu comme sérieux à l'heure actuelle, parce que le jeu a toujours fait partie de l'humanité, mais a perdu au fur et à mesure des derniers siècles, a perdu ce côté central de nos vies. Alors que c'est quelque chose tout aussi important que la nourriture, que éduquer les enfants. Le jeu fait partie de nos vies, fait partie d'être humain et d'être, même des grands singes jouent aussi, hein. Ça fait partie de la vie, de jouer. Et on a perdu ce côté-là en disant que le jeu, c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose de pas sérieux. Et donc, on peut se retrouver vite confronté à ça, tant dans la pop culture que dans le jeu vidéo. Et donc, il y a ce mordicus de maintenir le fait d'être sérieux, d'être pris au sérieux.
Diriez-vous que la pop culture, en fait, est un miroir de notre société, quelque part, ou alors un moteur de changement?
Je pense que c'est un petit peu tout ça. Dans le sens où, comme la littérature en son temps, comme d'autres moyens d'expressivité, d'autres moyens aussi de rassembler les gens, ça peut les inspirer comme ça peut les laisser tout à fait indifférents. Ce sont des modes d'expression et ces modes d'expression vont venir vous toucher ou pas. Et je pense qu'en ça, ça a une force parce qu'on voit notamment, je reviens sur la série It's a True Valerie parce que c'est quand même, moi ça me fascine en tant qu'anthropologue, ce qui est en train de se passer. On voit qu'il y a des coming out de certains sportifs qui ont eu lieu. Et donc, ça peut influer, clairement. Ça peut pousser, être inspiré, sentir qu'on n'est plus seul, qu'on est derrière une communauté. Je voyais des fans qui se rassemblaient dans des bars pour regarder la série ensemble. Ben, on voit là quelque chose qui est profondément humain, le fait de se rassembler, de vouloir être seul, et au final de trouver de la force à travers les liens sociaux, à travers le groupe. Et toutes les œuvres peuvent provoquer ça. Un livre peut provoquer un changement de vie incroyable, un jeu vidéo peut le faire, une œuvre de pop culture peut le faire. Donc je pense que ça peut fédérer, que ça peut inspirer, et je pense que ça représente aussi un peu nos sociétés, tout en ne les représente pas tout à fait, dans le sens où, ben, comme j'aime le rappeler, ce sont quand même des stéréotypes, ce sont quand même des choses qui... C'est une production parfaitement imparfaite, humaine, et donc elle a ses limites, elle ne représente pas tout le monde, elle peut parfois véhiculer aussi des messages qu'on n'a pas envie de voir véhiculer personnellement, ou peut-être sociétalement, et donc il faut prendre ça comme un énorme géant qui est là derrière et qui peut apporter tant de bienfaits que de méfaits. Mm-hmm. Mais c'est à nous, en tant qu'humains, de prendre la responsabilité d'en faire quelque chose.
Vous parliez à l'instant de communautés de fans. Ont-elles plus de pouvoir qu'avant ?
Je pense qu'elles sont plus visibles, dans le sens où avant, ben, elles se manifestaient par un achat, elles se manifestaient par, on peut dire, un succès chiffré direct en termes de vente, par exemple. Maintenant, on voit que ben, les fans partagent des contenus vidéo, des contenus écrits, prennent aussi en charge, je voyais notamment, ben, finalement, ça a été fait, mais la mise en place de merchandising, etc., par eux-mêmes. Donc, il y a vraiment une prise en main et une sorte de circularité qui est beaucoup plus présente. J'aime dire que, en fait, depuis Internet, les échelles changent.
Quelle est la différence entre, pour vous, entre pop culture et culture geek ? Est-ce qu'on parle de la même chose ou pas du tout ?
Mais pour moi, la pop culture, on pourrait dire, c'est la grande armoire dans laquelle se trouve effectivement la culture geek. Bien que on voit petit à petit que la culture geek devenant tellement mainstream, maintenant devenant tellement répandue, que finalement, qu'est-ce que c'est encore la culture geek ? Est-ce que c'est pas un reliquat du passé, comme on avait la culture de D&D, etc., qu'on voit dans Stranger Things ? Est-ce qu'on n'aurait pas là une espèce d'appellation d'un groupe qui était là présent dans les années 2000-2010, mais qui au final maintenant est devenu totalement répandu? Est-ce que c'est parce que les générations maintenant des enfants qui eux-mêmes en fait répandent ça de manière très, très générale? Je pense que voilà, c'est un terme daté, culture geek. Mais pour moi, si on devait dire la culture liée aux jeux vidéo et à tout ce qui est effectivement plus loisirs vidéoludiques, on voit clairement que c'est une sous-culture à travers cet immense, on pourrait dire, rouleau compresseur de la pop culture.
Il n'y a plus vraiment de profil type du geek, entre guillemets, aujourd'hui, ou du nerd. Enfin, je ne sais pas quelle est la différence pour vous de ces deux termes. mais on est vraiment loin du cliché du jeune boutonneux enfermé dans sa chambre. Maintenant, ça touche vraiment... toutes les couches de la population.
Oui, j'ai pu observer sur mes terrains que c'est à la fois le papa d'une cinquantaine d'années qui joue avec son fils adolescent à travers le jeu et qui lui montre « Regarde, moi j'ai joué à la première version », que ça peut être la fille qui girly et met des petits champignons et fait un setup pour que son ordinateur soit le plus mignon possible. Donc on a vraiment, mais absolument, tous les profils. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que voilà, il y a lié à la culture geek qu'il y a eu pendant tout un moment, ce côté c'était très masculin. Je pense qu'il reste encore un peu une résistance du côté association au côté masculin, et que même, je pense, une communauté, bon, moi je vais dire malheureusement parce que je suis femme et voilà, mais je pense qu'il y a une forme de résistance dans certaines sous-communautés du bastion, que c'est censé être resté un loisir masculin.
Ah oui.
Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. On voit au niveau des chiffres que, alors on va vous dire, oui, bon, allez, c'est 57% et 43% de l'autre. Mais regardez les chiffres, c'est kiff-kiff, quoi. Même à l'heure actuelle, je crois qu'on a à une, peu près 50% de chaque côté. Donc, en fait, quand on regarde les chiffres, non. Non, non, non. Et il y a des jeux qui attirent peut-être un peu plus d'hommes et des jeux qui attirent peut-être un peu plus de femmes. Mais au fur et à mesure, on voit que c'est en train de s'équilibrer et que chacun y trouve en fait ce qu'il a envie d'y trouver. C'est ça qui est fantastique. Il y a plein de choses à voir et il y a de la place pour tout le monde.
Dans Le pouvoir des geeks, comment la contre-culture est devenue une arme politique, Damien Leloup, journaliste au Monde, explique comment les passionnés de jeux vidéo ou de science-fiction naguère marginaux sont aujourd'hui représentés parmi les principaux dirigeants économiques ou politiques, en particulier
à l'extrême droite. Il analyse comment la contre-culture geek est devenue une arme politique et explore les références communes d'Elon Musk, de J.D. Vance et de Giorgia Meloni à travers Batman, Iron Man, Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars. Et Elon Musk s'identifie un peu à Batman, on peut le comparer, enfin ils ont des similitudes, c'est un milliardaire qui se dit investi d'une mission, sauver le monde. Enfin voilà, comment vous analysez tout ça?
Alors il va y avoir deux volets à ma réponse.
Oui.
La première sur Elon Musk et cette comparaison, et la seconde plus personnelle parce que ma sœur est une spécialiste de Tolkien, une streameuse qui a une communauté assez importante autour de l'univers de Tolkien, et donc je connais bien ce sujet, je vais plus m'en servir d'exemple dans un second temps. Donc, dans un premier temps, ce qui est très fort dans la pop culture, c'est ces archétypes stéréotypés qui parlent, en fait, facilement. On reconnaît le milliardaire, on reconnaît le héros salvateur. C'est toutes des grands archétypes, toutes des choses qui symboliquement sont très fortes, qui sont mises en scène. Donc, forcément, un homme qui a des caractéristiques exagérées, va pouvoir, quelque part, se faufiler dans la peau ou se dire, c'est presque une allégorie de ma personne. Mais tout le monde peut faire ça, en fait. Donc, je dirais que c'est les points forts des discours politiques, c'est à certains moments d'utiliser quelque chose, d'en faire un fer de lance et de le mettre en exergue et d'en faire une vérité parce qu'on la martèle, qui est comprise par tout le monde, qui montre des choses exceptionnelles, mais au final, qui met en exergue des choses profondément humaines. Et on est tous quelque part humain, et au niveau politique, je pense que ça peut être très, très facile de tomber là-dedans, très facile de tomber dans la réutilisation, et parfois de tirer une chose pour en extraire juste une partie et dire, regardez, on peut pas venir me contester là-dessus. Mmh. Et c'est là que j'en viens au Seigneur des Anneaux. C'est le Seigneur des Anneaux, justement. Ma sœur serait très fière de moi en ce moment que je cite Tolkien. Mais Tolkien dit dans son appendice du Seigneur des Anneaux, dit qu'il refuse toute allégorie de son œuvre. On peut l'interpréter comme on veut, c'est de la liberté du lecteur. Mais que lui, il n'a pas voulu y mettre ce sens qu'on lui a donné. Déjà à son époque, on essayait de lui dire, oh, il a voulu mettre en exergue la foi chrétienne, etc., parce qu'il était profondément chrétien. Il s'en est toujours défendu, contrairement à C.S. Lewis. Il s'est défendu de ça en disant non, je ne suis pas là pour faire une apologie du christianisme, je ne suis pas là pour parler d'un héros salvateur contre le nazisme. Vous y voyez ce que vous voulez, mais ce n'est pas ce que moi j'ai voulu faire. Moi j'ai voulu faire une œuvre complexe, complète, humaine, tirée du Moyen-Âge, etc. Donc on voit déjà là qu'il y a d'un côté celui qui produit et de l'autre celui qui reçoit. Et celui qui reçoit peut interpréter comme il veut. Et c'est ça le danger, c'est que, peu importe le parti politique, hein, parce que la gauche a fait ça, et il y a des livres qui sont sortis sur le Seigneur des Anneaux, qui sont de gauche aussi, et c'est une réappropriation forcée d'auteurs et de créateurs. On peut chercher, même dans les jeux vidéo, des exemples où ça nous parle autrement, on l'interprète autrement, et donc on va le tirer et l'utiliser à des fins qui nous sont propres. Mais ce n'est pas ce que les œuvres disent d'elles-mêmes. Il faut toujours être attentif à ça, et la partie anthropologie m'a énormément aussi aidé à ça, le côté critique historique, et je crois qu'à l'heure actuelle, elle est d'autant plus importante à enseigner et à rappeler le fait d'être critique vis-à-vis de ce qu'on voit. Il y a toujours revenir à l'œuvre. Est-ce que le comics de Batman nous parle au final d'un Elon Musk avant l'heure? Force est de constater, on a chacun son avis, mais que je ne pense pas que l'auteur avait pensé à ça quand il a créé son comics, et tout comme Tolkien ne pensait pas à la réutilisation à des fins politiques, qu'elles soient de gauche ou de droite.
Vous avez mené une thèse sur les humanités numériques, et plus particulièrement sur les jeux de Blizzard Entertainment, Overwatch, Heroes of the Storm et Hearthstone, excusez-moi pour l'accent, ainsi que sur leur communauté et acteurs. Vous êtes particulièrement intéressé au jeu Overwatch, dont la première édition est sortie en 2016. Pourquoi ce jeu? Est-ce que c'est une référence dans le domaine?
Pas forcément. C'était un jeu mainstream, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui m'appelait, dans le sens où ça m'a interpellé. Je pense qu'un anthropologue, il va aller là où il est interpellé. Il y a une question qui va le travailler, quelque chose qui lui dit, tiens, il se passe quelque chose de différent de ce que j'ai vu avant. Et moi, c'était le cas, dans le sens où j'ai remarqué que c'était un jeu qu'on appelle FPS, donc First Person Shooter, où c'est un jeu à la première personne, qui est un jeu de tir. Mais pourtant, il y avait un univers très lumineux. On était loin des stéréotypes de l'armée, de Counter-Strike, etc. On était très loin de ce type de jeu. C'était plus family-friendly. Ce qui est hyper intéressant quand je me suis intéressée en premier lieu à Overwatch, c'est le côté transmédiatique. Une expérience qui était partagée, qui n'était pas seulement dans le jeu vidéo, mais qui pouvait se répandre dans d'autres milieux, qui étaient tant dans la production de vidéos que sur des forums, eux-mêmes créer des comics, créer des vidéos pour qu'il se passe une histoire qui dépassait le jeu lui-même. Donc, et il y avait ce côté aussi un peu ovni pour moi du jeu qui ne présentait pas les caractéristiques habituelles et qui potentiellement pourrait amener son lot de challenge vis-à-vis des catégories classiques parce que ben voilà, il y avait toute une série de catégories classiques FPS, jeu de tir à la première personne très militaire. Et là, boum, je pouvais montrer un contre-exemple et voir ce qui allait se passer. Et aussi, c'était un jeu neuf. Donc, j'assistais à la naissance d'une communauté, contrairement à beaucoup de mes collègues qui arrivaient dans des communautés déjà présentes.
Et qu'est-ce que vous avez découvert, justement, au niveau de l'esprit C'est l'esprit d'équipe, l'esprit de coopération qui vous a intéressé?
Alors, au départ, oui. Au départ, c'était clairement voir les communautés de joueurs et voir comment, alors qu'il n'y a pas énormément de moyens de communication au sein du jeu, comment les gens se coordonnaient, comment ils créaient un sentiment d'appartenance, où ils se retrouvaient au final, sur quel espace, est-ce que c'était en dehors du jeu, dans le jeu, etc. Et au fur et à mesure, j'ai découvert quelque chose qui m'a un peu pris de court, c'est ce pouvoir particulier du récit quand il est ajouté à une dimension vidéoludique. Et ça a été hyper révélateur pour moi. Et c'est pour ça que je suis effectivement plus tombée après dans le côté de la pop culture, parce que je me suis rendu compte en fait à quel point les gens se réappropriaient les récits et les intégraient à leur propre récit. Parce que finalement, on est tous en train d'écrire notre propre vie, on est tous en train de la raconter, de la raconter aux autres, de se la raconter à soi-même. Et donc au final, ben, on voit que les jeux vidéo, même les œuvres fictionnelles livresques ou autres, viennent en fait ajouter un petit quelque chose à chaque fois dans notre histoire et dans l'histoire de nos groupes. Et je trouvais ça absolument fascinant. Et Overwatch, pour ça, a été très, très fort et très marquant pour les joueurs qui étaient présents en ligne. C'est que un personnage pouvait devenir le vôtre. Il appartenait à tout le monde pouvait le jouer. Mais quelque part, quand vous le jouiez, il était à vous. Et vous suiviez ses aventures. Parfois, vous les refusiez. Il y a eu beaucoup de débats autour, notamment d'un personnage qui est lesbienne. Il y a eu tout un débat autour de cette figure de proue parce qu'elle était sur les jaquettes des jeux vidéo. Donc il y a eu un petit peu un raz-de-marée quand on a découvert son orientation sexuelle. Les gens ont fait tout un débat dessus et on voyait que ça a vraiment été un débat de société.
En fait, les jeux vidéo participent aussi à la construction des identités, alors, selon vous, de genre, de classe sociale, de culture, de...
Pour moi, elle y participe avec tout le reste. C'est-à-dire que dans le sens, c'est systémique. Hein. C'est à la fois notre système, c'est à la fois nos gouvernements, notre éducation, l'école. Tout nourrit, en fait, notre identité, la construction de notre identité. Et donc, si on est en contact avec le jeu vidéo, ou même de loin, qu'on regarde ce qui se passe, il y a toujours, quelque part, des choses qui vont passer et qui vont venir nourrir notre identité. Pour les joueurs, c'est de manière beaucoup plus directe. C'est-à-dire qu'ils vont assister à des débats, ils vont assister à des choses où ils vont se dire bah, « Tiens, ça vient me challenger » ou « Tiens, j'ai joué ce personnage-là et son histoire m'a touché et m'a ouvert les yeux sur une réalité que je ne connaissais pas. » Et donc, oui, ça construit les entités, parfois de manière directe, mais parfois aussi de manière indirecte. Et parfois, ça les déconstruit aussi. Mais il ne faut jamais oublier quelque chose, parce qu'autant ça peut être persuasif, un jeu vidéo. C'est une des choses qui est très difficile avec le jeu vidéo à l'heure actuelle, pour moi en tout cas en tant que chercheuse, c'est de voir qu'on reporte la responsabilité sur le jeu vidéo, sur la technologie, plutôt que sur l'humain qui l'a créé, l'humain qui l'utilise et l'humain qui accepte d'avoir une partie qui passe. Je pense notamment à toutes ces tueries qu'on reporte systématiquement sur le jeu vidéo. Le jeu vidéo ne construit pas des psychopathes. Le jeu vidéo peut être un déclic. Oui, il ne faut pas mettre la tête dans le sable, hein, ça peut être un déclic, mais ce déclic aurait pu être un voisin qui vous harcèle et la goutte d'eau, c'est trop. Ça peut être un déclencheur pour certaines personnes qui présentent déjà un profil qui peut les mener à ça. Ça aurait pu être autre chose, ça a été ça. Mais le jeu vidéo, ben, y a des millions de joueurs et il n'y a pas des millions de tueurs. Mmh. Il faut remettre l'église au milieu du village. Le jeu vidéo a une force persuasive, mais cette force persuasive, elle est à la hauteur de ce que l'humain choisit de lui laisser, en fait.
Est-ce que des études ont vraiment démontré une corrélation entre des comportements violents et l'addiction aux jeux vidéo ?
Il y a plusieurs éléments, là. On pourrait dire deux pôles de recherche assez forts qui ont été cités dans votre question. Il y a celui de la violence aux jeux vidéo et celle de l'addiction. Celle d'addiction, c'est un gros débat parce que effectivement, il y a une forme. Tu te dis que c'est pas l'addiction parce que on peut arrêter la substance ou en tout cas on peut arrêter le lien aux jeux vidéo quand on veut, contrairement à des substances comme la cocaïne qui par le corps littéralement dépendant. Donc on a autre chose. Par contre, je pourrais dire que le jeu vidéo étant un refuge pour certaines personnes, étant une manière aussi d'oublier leur vie, de laisser passer le temps, de mettre en retrait les sentiments et les pensées, je pense que ça peut effectivement devenir une pratique à outrance. Moi, j'aurais plus tendance à dire ça. C'est une pratique à outrance qui peut faire penser à l'addiction. Mais elle est toujours, et c'est ça qu'on a la responsabilité, c'est toujours quelque chose qui dit une société. Pourquoi est-ce que la personne s'est repliée au point de? Est-ce que c'est parce qu'elle n'avait pas de communauté? Est-ce que c'est parce qu'elle n'arrive pas à trouver les moyens de? Est-ce que c'est parce qu'elle est en dépression? Et donc, de ce fait-là, comment est-ce que le groupe peut ne pas faire que cette personne s'isole, puisse trouver les moyens d'être en paix, en sécurité, mais puisse aussi, finalement, guérir et sortir de cet état pas, c'est pas une maladie mentale, hein, mais c'est un trouble, clairement, un désordre même chimique, on le voit dans les études. Donc, comment est-ce qu'on peut faire que cette personne, qui de toute évidence est en souffrance, comment est-ce qu'on peut la réintégrer à la société de manière à ce qu'elle retrouve un équilibre et qu'elle se retrouve, on pourrait dire, une relation saine, équilibrée vis-à-vis du jeu vidéo. Donc, addiction, c'est pour moi un autre pôle. Oui. Et violence, je pense sincèrement que des profils qui ont besoin d'un exutoire vont parfois aller le chercher, que ce soit en allant courir, que ce soit en tapant dans un oreiller, que ce soit en faisant du MMA ou que ce soit en jouant aux jeux vidéo. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de cet exutoire. Est-ce que ça les rend violents pour autant? Non, le jeu vidéo ne pousse pas à être violent. Par contre, des profils qui ont besoin de cette violence peuvent y trouver quelque part quelque chose qui va leur parler, voire quelque chose qui va leur donner en fait le déclic, voire même la justification. Parce qu'à l'heure actuelle, et je pense que ça, il faut se méfier aussi de ce double discours, c'est le jeu vidéo peut causer, mais le jeu vidéo peut servir d'excuse.
Et quel rôle les jeux vidéo jouent-ils dans la sociabilisation des jeunes générations ?
Dans la sociabilisation des jeunes, on peut voir qu'il y a ce rapport aux technologies, déjà. Je vais distinguer celle des réseaux sociaux. On les lit parce que l'objet technologique est là, mais pour moi, c'est des mondes tout à fait différents et des pratiques tout à fait différentes. Ce que je vois, c'est que le jeu vidéo permet en fait d'avoir cette sorte de lien facile, dans le sens où il y a une sorte d'amitié parce qu'on joue à la même chose. Vous promenez un chien, vous allez au parc avec votre chien, vous croisez un autre propriétaire de chien qui promène son chien. Il y a une sorte de connivence qui se fait, il y a une facilité aussi de discours parce que vous pouvez discuter avec cette personne de quelque chose qui vous rassemble. Et je pense qu'il y a ça au départ, quelque chose qui rassemble, on se sent faire partie d'un groupe, ce qui donne un sentiment d'appartenance qui est, je pense, très bénéfique. Se sentir seul, je pense que c'est une des maladies du siècle, les pires qui puissent avoir lieu. Et donc, Dieu merci qu'il y ait des espaces comme ça, que ce soit en jeu vidéo ou en dehors. Et en dehors de ça, j'ai pu remarquer aussi qu'il y a des formes de leadership qui s'apprennent à travers, parce qu'on fait partie d'un groupe. Mais ce groupe, parfois, il doit être dirigé, on doit prendre des décisions, il y a des stratégies à mettre en place, il y a aussi toute une série de compétences qu'on apprend. C'est la force du jeu, c'est de pouvoir nous apprendre des choses. Chaque jeu, qu'il soit l'enfant qui joue avec des cailloux dehors et qui partage avec son ami ou qui joue simplement faire semblant, ce sont des apprentissages. C'est l'amusement et on voit que cette part d'amusement, cette part de légèreté permet profondément de nourrir de manière beaucoup plus organique l'être humain.
Selon vous, que nous diraient les anthropologues du futur sur notre rapport aux jeux vidéo ?
Je pense déjà que les anthropologues du futur nous regarderont probablement avec le même regard qu'on a sur le passé, avec un regard très dur et un regard compréhensif, dans le sens où nos sociétés vont profondément changer, nos valeurs vont profondément changer, ça c'est certain, et ce qui nous paraît tout à fait normal deviendra peut-être insupportable plus tard. Donc certains débats qu'on a pu mettre en avant, ou certaines fictions qu'on a pu mettre en avant, et on le voit à l'heure actuelle, hein, certaines fictions posent question parce que ce n'est plus à l'heure actuelle, ce n'est plus la place de la femme, ce n'est plus le discours, ce n'est plus les sexualités, ce n'est plus ce qu'on est, ce qu'on veut, ce que notre société véhicule. Donc je pense qu'ils auront ce regard aussi de se dire ça, c'était quelque chose qui les appréciait, c'était quelque chose qu'ils supportaient, c'était quelque chose qui était globalement acceptable de dire en société. inquiéter. Je pense qu'il y aura ce côté-là. Mais l'anthropologue, lui, va le regarder non pas en se disant « Oh, c'était mal ou c'était bien », il va le regarder en disant « Tiens, en fait, ça, ça représentait une de leur réalité. Qu'est-ce que ça disait de l'être humain? Comment il se construisait avec tout ça? Comment est-ce qu'il faisait groupe afin de pouvoir se dire « À l'heure actuelle, maintenant, dans ce futur, comment est-ce que ça peut nous apprendre des choses pour mieux vivre notre futur et en tirer les bonnes leçons ?» Tirer les leçons du passé en ne mettant pas la tête dans le sable, mais en tirant quelque chose de positif qui va permettre à notre société d'évoluer dans un sens qui fait que les individus y trouvent leur place, ou non. Mais j'espère qu'on arrive dans un futur où en fait ce sera plus le vivre ensemble qui sera mis en avant que la prédominance de certains groupes ou de certaines opinions.
Voilà, il n'y a pas péril en la demi-heure, c'est terminé. On se donne rendez-vous dans un mois, le vendredi 20 mars, entre 13h et 13h30 sur RQC. Et sinon, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de RQC et celui du Centre culturel moucronois, www.centrecultureldemoucron.be. À bientôt pour un nouvel épisode. And I'm feeling good.